c'est parce que Radio Capéuné le Congo que vous êtes concerné par cette émission. Habitants de toutes les provinces, Parole aux auditeurs est votre émission. Chaque jour de 11h à midi, heure de Kinshasa, le mercredi de 10h à 11h, vous donnez votre avis sur les grands thèmes de l'actualité ou les petits tracas de la vie de tous les jours. À vous aussi de proposer des solutions. Parole aux auditeurs, une émission à réécouter le soir à 20h et sur internet, radiocapi.net.
Bien. Dans quel contexte un agent de la police peut faire usage d'une arme létale et non létale? Vous savez, en cas de débordement, lors d'une manifestation publique, les agents de la police nationale congolaise utilisent, font recours à des gaz lacrymogènes pour disperser la foule. Et dans les pires des cas, certains policiers font des tirs de sommation en l'air pour mettre fin à une émeute. Cependant, parfois, ils utilisent des armes qui peuvent blesser ou tuer certains manifestants. Alors, quand est-ce qu'un policier peut recourir à une arme non létale et létale? Et pour en savoir plus, nous recevons aujourd'hui le commissaire supérieur principal et Kouka Lipopo Jean Romuyan, coordonnateur de la cellule de la réforme de la police. Encore une fois, bonjour et nos meilleurs vœux pour l'année 2017.
Merci mon frère.
Alors, c'est quoi une arme? Quelle est la différence qu'il y a entre une arme létale et non létale?
Merci beaucoup. Avant toute chose, permettez-moi, mon frère Kachama, de présenter mes vœux les meilleurs pour l'année nouvelle à vous-même.
Merci.
À Radio Capi, au personnel de la mission des Nations Unies en stabilisation pour la République démocratique du Congo et à toutes les personnes se trouvant en République démocratique du Congo, que ce soit des ressortissants nationaux, que ce soit des ressortissants étrangers, donc la police a mission première de sécuriser les biens et les personnes elles-mêmes. Donc, bonne année pour l'année nouvelle 2017 et je souhaite à toutes et à tous lever les meilleurs.
Merci.
Pour rentrer dans notre sujet de ce jour, vous demandiez de prime abord directement quelle est la différence entre une arme létale et une arme non létale.
Mmh.
Une arme non létale, c'est ce que nous appelons généralement les armes blanches. C'est-à-dire que des armes qu'on utilise pour essayer de disperser la foule. Des armes qui ne sont pas contondantes, qui ne portent pas blessure immédiatement quand elles sont utilisées de bon aloi et à bon escient, mmh. mais qui permettent de diffuser une certaine douleur pour permettre aux manifestants de dégager les lieux et de se disperser. Tandis qu'une arme létale, c'est carrément ce qu'on appelle une arme de guerre qui, elle, procure la mort, tirée à une certaine distance. La balle peut porter la mort.
Mmh.
Alors, dans quelles circonstances la police utilise-t-elle les armes létales et les armes non létales? Ce n'est pas de la réforme proprement dite, mais si je choisis ce sujet, c'est parce que c'est un sujet qui a fait verser beaucoup de larmes, beaucoup d'encre, et les uns et les autres ont leur conception sur cela. Il y a même certains qui disent que non, la police n'a pas le droit de porter les armes. Ce qui n'est pas correct. Et aujourd'hui, nous allons essayer d'expliquer, je souhaiterais que les auditeurs puissent suivre, les auditeurs à qui également je présente mes vœux les meilleurs pour l'année nouvelle.
Alors, dans quel contexte la police peut faire recours aux armes létales et non létales?
Voilà. Alors, je recours à la loi elle-même. Je n'invente rien, nous n'inventons rien, nous recourons à la loi. Quelle loi? La loi organique qui porte organisation et fonctionnement de la police nationale congolaise. Et laquelle loi se réfère également à toutes les lois pénales de la République démocratique du Congo.
Mmh.
L'article 8 dit ceci. La police nationale ne recourt à la force qu'en cas de nécessité absolue et uniquement pour atteindre un objectif légitime. Retenez deux mots. Nécessité absolue et objectif légitime. Donc, quand c'est vraiment absolu, c'est une nécessité, mais qui n'est pas relative, c'est-à-dire qu'on ne peut pas négocier. Elle est absolue. Et pour atteindre
un objectif légitime,
c'est-à-dire un objectif consacré par la loi, un objectif dont on ne peut pas se passer de la protection ou de la défense de cet objectif. Alors, en tout état de cause, continue l'article 8, l'usage de la force doit respecter le principe de proportionnalité et de progressivité. Alors, la proportionnalité, c'est quoi? C'est-à-dire que lorsque en face quelqu'un vous jette des pierres, vous n'allez pas commencer à lui tirer à balles réelles. Donc, vous allez défendre les lieux où défendre un objectif légitime avec des moyens proportionnels à cette intifada guillemets. Alors, la progressivité, c'est quoi? La progressivité, c'est-à-dire au fur et à mesure, nous allons crescendo ou décrescendo. Si les manifestants qui assaillent un lieu public ou qui veulent se saisir d'une personne, qui vous lance des pierres, ben, vous répondez avec des moyens qui sont proportionnels aux pierres. Mais quand les manifestants en face, la foule en face devient une foule armée, c'est-à-dire qu'il y a une seule personne déjà qui a une arme, alors c'est une foule armée et vous répondez progressivement, c'est-à-dire vous montez aussi crescendo dans les moyens de défense de ce objectif.
C'est ça la progressivité.
C'est ça la progressivité. Donc, on retient cela. De par cet article 8, on voit déjà que l'usage de la force est autorisé à la police. L'article 9 détaille davantage. Et il dit ceci. Dans l'exercice de leurs fonctions, les agents de la police peuvent, en cas d'absolue nécessité, on revient toujours sur l'absolue nécessité, employer la force des armes blanches ou des armes à feu. Donc les deux, armes blanches, armes non létales, et armes à feu, c'est-à-dire armes létales. Quand? Un, lorsqu'ils ne peuvent défendre autrement le lieu qu'ils occupent, les établissements, les postes ou les personnes qui leur sont confiées. C'est-à-dire que ces policiers peuvent utiliser les armes blanches ou les armes à feu que lorsqu'ils ne peuvent défendre autrement le lieu qu'ils occupent, c'est-à-dire leur PC, par exemple, leur poste de commandement, les établissements qui sont chargés de protéger, les postes qui sont chargés de protéger également, ou les personnes qui leur sont confiées. Quelqu'un qui a tué quelqu'un par inadvertance, mais il y a meurtre, mais on voudrait le soumettre à la justice légale. Mais les gens veulent faire leur vendetta et veulent récupérer cette personne des mains des policiers, eh bien les policiers doivent se défendre et défendre cette personne. La loi l'autorise. Deuxième cas, lorsque les violences ou voies de fait sont exercées contre eux-mêmes ou autrui. C'est-à-dire que lorsque les violences ou voies de fait sont exercées vis-à-vis de ces policiers ou vis-à-vis d'autrui qu'ils protègent ou qui les accompagnent lors de l'exécution de cette mission. Donc, les deux cas. Et la loi continue, elle dit ceci. Sans préjudice des dispositions de la linéa premier du présent article, donc ce que je lisais tout à l'heure, les agents de la police nationale congolaise font usage, en cas d'absolue nécessité, on revient encore là-dessus, d'armes blanches sans réquisition préalable. Donc, armes blanches sans réquisition préalable, contrairement à ce que les gens disent, lorsqu'ils sont chargés, dans l'exercice de leur fonction, de disperser les attroupements ou de réprimer des émeutes. Donc, il y a un attroupement, il y a une émeute. Sans réquisition préalable, les policiers, il leur est permis d'utiliser les armes blanches.
Quelles sont ces armes? Quand on parle des armes blanches, de quoi s'agit-il exactement?
Les armes blanches, généralement, c'est les matraques. Les gens voient ça. Ce sont surtout les matraques. Ce sont parfois les canons à eau, par exemple. Lorsque vous avez le camion à eau qui débarque sur le lieu d'une manifestation, il jette un jet d'eau. Voilà les armes blanches.
Généralement, c'est de l'eau chaude.
Non, pas du tout. Voilà. C'est parce que ça sort avec pression qu'on a l'impression que c'est de l'eau chaude. C'est de l'eau qui a été mis dans un bocal entre guillemets, le derrière du camion arroseur. Et lorsqu'il est envoyé comme jet d'eau avec puissance, ça paraît comme si c'était de l'eau chaude. Pas du tout. C'est de l'eau qu'on recueille au fleuve ou n'importe où.
Et quel est l'effet que ça produit sur les manifestants?
Ben l'effet que ça produit, je crois que vous n'avez jamais peut-être été dans une manifestation, mais ça vous repose quoi. Oui. Ça vous repose lorsque ça vous atteint. D'abord, vous êtes mouillé, donc vous êtes dans un état plus ou moins désagréable pour pouvoir faire n'importe quoi. Vous êtes
Et vous allez reculer.
Mmh. Et quand vous êtes prêt, ben c'est un jeu d'eau avec une certaine puissance, ça peut même vous renverser. Mais c'est une arme blanche parce que ça n'apporte pas la mort de manière contondante ou lorsque nous utilisons une arme à feu.
D'accord.
Alors,
les gaz lacrymogènes.
Oui, le gaz lacrymogène également, qui vous empêche de respirer correctement et qui, si vous êtes un bon citoyen, vous demande de dégager les lieux immédiatement. Parce que je ne vois pas quelqu'un qui...
Ça crée des sensations, vous avez l'impression que vous avez du piment dans les yeux.
Il y a une composition chimique là-dedans qui permet à ce que on mette un peu à mal la respiration de telle manière que les gens puissent dégager les lieux. Mmh. Mais c'est autorisé. Même la composition chimique, jusqu'à un certain moment, on ne peut pas dépasser la dose dans la composition chimique. Et là, nous allons même plus loin. C'est vraiment dans la fabrication de ces gaz lacrymogènes. Mais la composition et le taux des matières mises ensemble ne dépassent pas un certain seuil de par les lois internationales pour permettre justement de faire prendre conscience à la personne qui manifeste pour pouvoir dégager les lieux.
Mais voilà. À quel moment on fait recours à des tirs de sommation, par exemple?
Nous y allons.
Allez-y rapidement.
Alors, mais ils ne peuvent faire usage d'armes à feu, nous y sommes, que sur réquisition préalable de l'autorité légalement responsable du maintien de l'ordre. Donc, sans réquisition préalable, ils font usage d'armes blanches, mais il faut une réquisition préalable de l'autorité pour pouvoir faire usage d'armes à feu. Mmh. Alors, avant tout usage d'armes... C'est l'autorité politico-administrative. Et je vous explique. Cette autorité, donc, politico-administrative, fait 3 sommations formulées à haute et intelligible voix. C'est la loi qui dit haute et intelligible voix. Dans les termes suivants, obéissance à la loi, on va faire usage d'armes à feu, que les bons citoyens se retirent. Donc, obéissance à la loi. On relève d'abord que c'est la loi qui permet cela. Mmh. Secundo, on dit on va faire usage d'armes à feu pour que nul n'en ignore.
On le dit à l'aide des mégaphones.
Mégaphone,
pour que ça soit bien entendu.
Voilà, pour que ça soit bien entendu. À haute et intelligible voix. Donc le bourgmestre qui conduit les troupes de la police qui doit faire face à la manifestation, le gouverneur, je ne sais quelle autre autorité politico-administrative prend un mégaphone et il dit: on fait usage d'armes à feu à haute intelligible voix
pour que
plus tard,
s'il
y a contestation devant les cours des tribunaux, qu'on ne dise pas que on n'avait pas informé la population qu'on allait faire usage des armes à feu.
D'accord.
Que les bons citoyens se retirent.
D'accord. Voilà. Je reviens à vous dans quelques instants. On va accueillir quelques auditeurs qui sont déjà en ligne. Félicien nous appelle de Kinshasa, Georges Ntumba de Kananga et Albert Mwananga de Kananga.
Écho d'économie. Sur Radio Okapi, la vie économique du Congo a une vitrine. Écho d'économie. 18h15, heure de Kinshasa, un magazine qui prend la température. Les marchés, la vie des entreprises, le monde rural, des questions se posent, nous y répondons clairement. Les bonnes initiatives, une nouvelle idée, reportage sur le Congo qui bouge. 18h15, Écho d'économie, une émission de référence qui parle à tout le monde.
Dans quel contexte un agent de la police peut faire usage d'une arme non létale et létale? Félicien, vous êtes à Kinshasa, bonjour, et quelle est votre préoccupation?
Bonjour Jodis, bonjour à l'auditeur, à l'invité qui est là, et bonjour à tous les auditeurs. Ma préoccupation, je voudrais poser quelques questions à l'invité. La première, c'est de savoir si tout ce qu'il dit là, c'est ça qu'ils appliquent. Parce qu'il a bien parlé de la loi. Est-ce que cette loi-là est appliquée par notre police? Ça, c'est un. De deux, quand nous voyons ailleurs, et surtout en France, le pays où il y a trop de manifestations, trop de grèves, et la police avec des boucliers, regroupée en train de repousser la foule, même les casseurs et tout ça. Mais ici, chez nous, on utilise toujours des armes létales. Et dans chaque manifestation, il y a toujours des morts. Il y a même beaucoup de morts, même pour une simple marche, une simple manifestation. Comment on peut expliquer cela? Est-ce que vraiment nous avons, notre police est à le même niveau que toutes ces polices qui sont ailleurs? Voilà ce que je voulais savoir.
Merci Félicien. Georges Ntumba de Kananga, bonjour et quelle est votre préoccupation?
Bonjour monsieur le journaliste, bonjour aussi à l'invité du jour.
Bonjour.
Ok, ma préoccupation est celle de savoir. Je l'ai écouté très bien, il a bien élucidé le sujet, je suis très content de ça. Mais ce que je voudrais savoir, c'est que dans les heures actuelles, les contextes où il y a l'interdiction, par exemple, de ne pas se réunir, de ne pas manifester, c'est l'autorité morale parfois qui a lancé cet ultimatum-là ou bien cette interdiction-là. Mais lorsqu'il y a constatation d'une éventuelle réunion ou rencontre entre la population elle-même, vous verrez que la police vient pour intervenir. Alors ma question est celle de savoir, est-ce que la cible privilégiée est-elle seulement la tête ou la poitrine? Ne peut-on pas utiliser ces armes ici pour fracturer même les jambes à ces personnes-là, pour qu'elles restent quand même en vie? Puisque les armes, tant qu'elles soient létales ou non létales, elles provoquent seulement la mort. Est-ce que c'est bien ça, le rôle de la police?
D'accord, merci. Albert Mwananga, vous êtes également à Kananga. Bonjour, et quelle est votre préoccupation?
Bonjour, monsieur Jody. Je présente mes vœux de meilleur à notre invité.
Merci.
Oui. J'ai deux questions à poser à notre invité. Je pense que en suivant notre invité, il a bien parlé quand même. Notre invité s'est bien attaché à la loi. Nous ne refusons pas cette loi. C'est très vraiment capital pour nous. Mais est-ce que notre invité peut nous rassurer mieux que sur le terrain, nos policiers que nous avons ici? Est-ce que réellement ils répondent à ce qu'il vient de dire en citant la loi que nous avons qui nous régit ou pas? Parce que nous constatons que sur le terrain, je pense qu'on utilise, on ne sait pas pour des fins purement, je ne sais pas, politique, si je veux dire comme ça. Ça, c'est la première fois qu'il passe.
Oui.
La deuxième fois qu'il passe, je vais un peu demander à notre invité, pourquoi utiliser les armes à feu ou les armes létales comme on les fait? Parce que nous avions appris sur les zones de la radio Capi qu'il y avait un paisible, je dis bien un pauvre électeur qui a été un peu tiré, je ne sais pas pourquoi. Tout ça, bon. Quelle est la position de, ou bien quelles sont les dispositions déjà prises au niveau de la hiérarchie et de la police en ce qui concerne ce genre de comportement que nous sommes en train de décrier du jour au jour? Merci beaucoup.
Bien, merci. Mon commissaire, vous avez la parole.
Merci beaucoup. Je commencerai par le troisième auditeur, Albert, qui vient de Kananga, qui nous demande si sur terrain, les policiers respectent-ils la loi? Et il ajoute, pourquoi l'utilisation des armes létales? Mais nous venons de le dire maintenant que la police a le droit de, par la loi, d'utiliser les armes létales. Quand, dans certaines conditions bien déterminées par la loi, et j'ai décrit ces conditions tout à l'heure. Donc, la question demandée, pourquoi l'utilisation des armes létales, ça tombe automatiquement parce que s'il a suivi mon explication, il voit très bien directement que la police a l'utilisation des armes létales. Alors, il demande si les policiers respectent la loi. Les policiers respectent la loi dans les conditions qui sont celles de la manifestation. Il est dit dans un premier temps que pour les armes blanches, c'est sans réquisition. Par contre, pour les armes à feu, il faut une réquisition. Et une réquisition de l'autorité politico-administrative. De un, généralement, je crois, eux-mêmes, ils sont là, ils vont, ils voient, quand les manifestations se déroulent, les autorités politico-administratives, généralement, ne sont pas là. Parce que, qu'est-ce qui se passe? L'autorité politico-administrative, lorsque c'est une manifestation planifiée de longue date et que nous pouvons l'interdire, l'autorité politico-administrative ou administrative se tient devant la troupe sain de son écharpe mayorale, comme on dit, et qui fait les réquisitions à haute et intelligible voix. Généralement, les autorités politico-administratives ne se retrouvent pas là.
Oui.
Et c'est le commandant du service d'ordre qui, d'office, remplace entre guillemets l'autorité politico-administrative. Alors que les réquisitions sont prononcées par l'autorité politico-administrative, mais non, c'est le commandant service d'ordre qui le dit. Il fait la même chose sur le fait qu'il n'est pas sain de son écharpe mayorale, symbole de l'autorité de l'autorité politico-administrative. Il n'a pas cette autorité. Lui, il n'a que l'autorité du commandant service d'ordre. Alors, comme je disais tout à l'heure, dans les circonstances qui sont celles de la manifestation et dans les moyens dont la police est dotée. Généralement, et il y a un auditeur qui parlait de cela, notamment Félicien de Kinshasa, oui. Quand il parle des boucliers, eh ben si vous voyez, nous avons toujours des boucliers. Nous avons toujours des boucliers lorsque nous intervenons lors des manifestations. Lorsqu'il y a par exemple des jets de pierres, oui. Nous avons des boucliers pour nous permettre de ne pas recevoir ces jets de pierres. Parce que de l'autre côté, la foule est hostile. La foule n'est pas calme. Donc ça dépend également de la foule. Lorsqu'elle est hostile, nous avons une certaine attitude. Lorsque la foule n'est pas hostile, nous avons une autre attitude paisible. Lorsque la foule, elle n'est pas hostile, elle est en train, par exemple, d'arpenter une artère, qu'est-ce que nous faisons? Lorsque la marche est autorisée, nous canalisons cette marche-là. Et avec des boucliers ou sans boucliers, nous sommes tout autour de cette marche-là. Mais lorsque nous avons en face de nous une foule qui est devenue hostile, qui commence à lancer des pierres, qui commence éventuellement à utiliser des armes à feu, même lorsque il y a un seul manifestant qui a une arme à feu, alors nous changeons également notre attitude. Nous pouvons être dans une attitude passive, ce que nous appelons les opérations défensives, mais nous pouvons passer à une attitude dégagement. Offensive. Donc, une opération offensive. Alors, donc, ça dépend également de ça.
Félicien dit pourquoi dans chaque manifestation, même s'il y a une petite manifestation, on compte toujours des morts.
Lorsqu'on compte des morts, ce n'est pas par besoin de faire des morts. Certainement par le matériel que nous avons. Vous savez que nous avons un certain matériel, mais vous êtes sans ignorer que notre matériel est vétuste et nous n'arrêtons pas de demander à l'autorité de pouvoir doter la police d'un matériel nécessaire pour pouvoir faire face à une troupe lors d'une manifestation. Lorsque nous avons des boucliers, lorsque nous avons des matraques, lorsque nous avons des armes blanches, notamment des gaz, nous n'allons pas utiliser les armes à feu. Si vous voyez qu'un policier utilise une arme à feu, c'est donc il n'a pas cette autorisation, mais c'est quand il est vraiment coincé, et nous revenons à cette notion dont j'avais parlé d'absolue nécessité. Vous avez vu les manifestations qui se sont déroulées dernièrement. Les policiers étaient en train de protéger des établissements, des maisons. La foule est arrivée dans une attitude hostile et a mis feu aux policiers. Les policiers sont morts. Est-ce que, dans un sens civique, est-ce qu'on peut accepter cela? Ce n'est pas normal. Il faudrait que lorsqu'on nous demande des questions comme ça, on nous pose des questions, il faut voir en face ce que c'est. Je crois qu'aucune loi ne permet à la foule, même si elle est en colère, même si elle est en délire, de pouvoir brûler des policiers, ou de brûler des immeubles, ou de brûler des postes de police. Mais ce n'est pas pour cela que nous tirons. Non, c'est lorsque quelque part le policier est dans une position, on ne peut plus, impossible, pour se dégager, car la loi le permet. Lorsque les violences sont exercées contre eux-mêmes, les policiers, ou contre autrui. À ce moment, légitime défense oblige, à un certain moment, il peut peut-être faire face à il peut faire.
Mais pourquoi ne pas tirer en l'air au lieu de tirer à bout portant? Mais
vous suivez, mon frère Kachama. Vous suivez les manifestations. Lorsqu'il tire en l'air, on compte, manquant, mi balai, mi sat, mi sat. Et lorsqu'il n'a plus de munitions, on le prend quand même, on le brûle. Vous voyez? Donc, on ne peut pas, à un certain moment, ne pas dire que c'est la police qui est mauvaise, qui utilise les armes à feu abusivement. Non. C'est-à-dire que les conditions sont celles de la manifestation. Et lorsque une manifestation se déroule de manière non spontanée, planifiée, mais calme, la police n'utilise pas non plus des armes.
Jean, je vous dis, pose la question de savoir pourquoi ne pas tirer peut-être à la jambe au lieu de tirer à bout portant et de donner la mort à quelqu'un.
Voilà. C'est une très bonne question. Vous savez ce qu'on appelle les tireurs d'élite. Il y a des tireurs d'élite. Pour atteindre une jambe, c'est peut-être pas évident. Donc, quand quelqu'un tire à la poitrine ou à la tête, il ne tire pas forcément la tête. Il tire peut-être dans une direction non dangereuse, mais ça atteint la tête de quelqu'un ou la poitrine. Parce que même pour celles et ceux qui sont peut-être pas spécialistes de tir, mais lorsqu'il faut viser une jambe, il faut vraiment bien viser, hein. Mais lorsqu'on atteindrait cette jambe, il y aurait quand même des gens qui nous demanderaient, mais pourquoi avez-vous tiré sur la jambe? Non, je crois que lorsqu'on atteint la poitrine ou la tête, ce n'est peut-être pas quelque chose qui a été prémédité, c'est tout simplement que le policier essaie de tirer dans une direction non dangereuse pour pouvoir dégager des gens, et mais qu'à ce moment-là, la balle par ricochet ou par je ne sais quoi, peut aller toucher la personne à la poitrine ou à la tête. Parce que jamais, on n'a jamais vu quelqu'un qui a été tiré dans une manifestation comme ça, avoir une balle en plein yeux, ce serait le fait d'un tireur d'élite, alors que nous ne les utilisons pas, ou à la poitrine au niveau du cœur, ça, ce serait le fait des tireurs d'élite, alors que nous ne les utilisons pas. Nous ne les utilisons pas.
On va, avant de reprendre la question d'Albert de Kananga, nous allons accueillir l'ingénieur Joé de Kinshasa. Ingénieur, bonjour, et quelle est votre préoccupation? Ingénieur Joé, vous êtes en ligne, bonjour. Bon, on n'entend pas très bien, il y a trop d'écho. Alors, revenons à la question d'Albert Kande de Kananga. Il dit, est-ce que nos policiers respectent tout ce que vous avez dit tout à l'heure? Et il a donné un cas d'un policier qui a tiré sur un jeune homme. On a suivi les cas à Lubumbashi lors de l'enrôlement des électeurs. Même hier, un policier avait tiré à Ivre, avait tiré sur un agent de la CENI ou sur un... On n'a pas encore toutes les informations, mais vous avez certainement aussi appris cela. Qu'est-ce que vous pouvez lui dire?
Oui. Le personnel de la police est un personnel rodé. C'est un personnel formé. C'est un personnel qui a un statut. Et dans le statut, il y a le régime disciplinaire. C'est-à-dire que lorsqu'il y a une bavure qui se commet, et des bavures, on sait, ça se commet dans toutes les polices du monde, et encore moins chez nous, mais dans d'autres pays, il y a beaucoup de bavures qui se commettent. Il faut une enquête. Et dans ce cas-là, il y a eu une enquête également qui se poursuit jusqu'à ce jour. On ne peut pas ne pas dire qu'il ne peut pas y avoir une bavure. Dans toute opération, dans toute action, même planifiée, il y a toujours un pourcentage peut-être de bavure, peut-être d'échec. Le problème, c'est quoi? C'est de prendre le fait de pouvoir ouvrir une enquête, d'étirer les leçons et prochainement de pouvoir recadrer les choses. Lorsqu'il y a un policier qui tire sur une personne, il faut voir est-ce qu'il était ivre. Est-ce qu'il n'était pas malade? Est-ce que il n'était pas dans une position où il ne pouvait pas se défendre autrement? Voilà, tout ça, c'est l'enquête qui va le révéler. Mais on ne peut pas dire d'emblée que cette personne-là, ce policier-là, a voulu délibérément supprimer la vie de quelqu'un.
Bien, nous avons merci à Adonis Kamengwa qui nous a écrit sur la page Facebook de l'émission Capi Service. Il est à Kolwezi, il dit ceci, les policiers doivent avoir la maîtrise, voilà, pour gérer un soulèvement populaire, mais dans la plupart des cas, ils dérapent en utilisant des armes non recommandées dans de telles situations, étant donné qu'il y a beaucoup de policiers, c'est drogue, c'est pourquoi ils ont la facilité d'ouvrir le feu et de tirer à bout portant dans la foule. Ils portent des baïonnettes, armes à balles réelles, des grenades et d'autres ramassent des pierres pour calmer la foule. Pour ces policiers, soit c'est la formation qui a été mal faite, soit c'est le niveau intellectuel qui est trop bas, soit c'est leur chef qui les pousse à adopter un tel comportement macabre. Qu'est-ce que vous pouvez dire à Adonis de Kolwezi?
Merci à Adonis de Kolwezi. Je l'ai dit tout à l'heure, il y a un régime disciplinaire qui est prévu dans le statut de la police, en régime disciplinaire qui permet de sanctionner tout policier de quelque rang et de quelque grade que ce soit lorsqu'il se méconduit et lorsqu'il porte préjudice à la vie d'autrui. Il y a également les cours et tribunaux devant lesquels le policier peut être déféré. Alors nous revenons à la base sur ce qu'il dit. Peut-être la formation, peut-être qu'il s'est drogué, eh bien tout ça, ça arrive. Ce sont des gens qui sont autant que ceux qui sont en face que nous. Nous avons environ 200 000 policiers, mais nous ne pouvons pas, dans les 200 000 policiers, dire celui-ci est un bonus pater familiaris. C'est-à-dire, à tout moment, en toutes circonstances, même avant une opération, le commandant d'unité contrôle ses policiers pour voir tel abus, et il faut l'écarter, tel autre n'est pas peut-être dans les dispositions morales, parce qu'il a eu un problème chez lui, c'est querellé avec son épouse ou avec ses enfants, il a des problèmes pécuniaires par exemple, il écarte. C'est-à-dire qu'avant toute opération, avant tout, il y a toujours un briefing, pendant lequel le commandant se rend compte de la disponibilité morale et professionnelle de ces hommes. À ce moment, il peut dire, celui-ci, il peut pas aller dans cette opération, il peut rester ou tel autre peut venir. Alors, lorsqu'une question comme ça lorsqu'un problème pareil se réalise, il faut toujours, comme je le dis, faire une enquête et voir dans les dispositions lesquelles se trouvait le policier pour pouvoir faire cela. Mais une chose est sûre, le policier est formé dans la mesure du possible. Nous sommes dans la réforme, et je l'ai dit, nous sommes en train d'évoluer parce que c'est un processus. Le policier a les quelques moyens qui lui sont donnés pour pouvoir se conduire correctement en tant que policier et professionnellement parlant. Et les autorités ne leur demandent jamais de commettre des bavures, mais les autorités n'arrêtent pas, et vous l'avez encore suivi environ une semaine, lorsque nous avons reçu notre autorité de tutelle, monsieur le ministre des Affaires intérieures, le commissaire général de la police a encore réitéré les demandes de la police pour pouvoir la doter en moyens suffisants pour pouvoir faire son travail et ne plus être laissé à... On n'a pas au jugement parfois trop intempestif de la population.
Ingénieur Mangoyo nous appelle de Kinshasa. Bonjour.
Bonjour, M. Jordi.
Quelle est votre question?
Oui, bon, moi j'ai une seule question à poser à notre invité que je salue en passant.
Merci, bonjour.
Mon commissaire.
Oui.
Vous avez dit, je vous ai bien suivi, vous avez dit que l'utilisation de l'arme, des armes létales.
Oui.
Est subordonné à une réquisition de l'autorité politique ou administrative, c'est ça?
Oui.
Alors, je prends le cas de la ville de Kinshasa. Lorsque il y a une manifestation pacifique, vraiment, il n'y a pas menace de la part de la population. Mais il y a tuerie. La police a tiré à balles réelles. Donc, au regard de la loi, on suppose qu'il y a eu, au préalable, autorisation de l'autorité politique administrative. Alors, pour le cas d'espèce, quelle est cette autorité politico-administrative responsable de cette tuerie? Parce que le commandant de la police n'a pas ce pouvoir-là. Alors, quelle est cette autorité politico-administrative pour la ville de Kinshasa qui sera portée pour responsable de cette tuerie? C'est ça ma préoccupation.
Je ne réponds que pour les policiers, car je suis policier et je viens parler de la police. Je parle du commandant service d'ordre qui est là, qui reçoit une réquisition de la part de l'autorité politico-administrative, qui fait des sommations, et j'ai édicté la sommation tout à l'heure, et ce n'est qu'à ce moment-là que la police, la troupe de la police, commence à faire son travail. Soit en raison d'une opération défensive, c'est-à-dire garder un lieu, faire un barrage, faire un encerclement, ou alors une opération offensive, peut-être dégager une place. Et à ce moment, le commandant service d'ordre, après la réquisition de l'autorité politico-administrative, juge du péril de la situation.
Voilà, voulait savoir quelle est cette autorité politico-administrative. S'agit-il du bourgmestre?
Mais je l'ai dit depuis.
Du gouverneur de la ville.
Peut-être qu'il ne m'a pas suivi, c'est le bourgmestre qui autorise dans une commune. Mmh. C'est le gouverneur, c'est ça l'autorité politico-administrative. C'est-à-dire que celle qui traite du contexte de la manifestation au plan légal, le policier n'étant qu'un instrument pour pouvoir
exécuter.
Voilà à ce moment-là. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, la loi, elle contient des dispositions pour pouvoir interpeller l'autorité politico-administrative ou interpeller le commandant service d'ordre pour que les responsabilités soient dégagées et que les poursuites puissent être engagées. Mais les poursuites ne peuvent pas être engagées non plus ou ne pas être engagées de manière assez... Elles ne peuvent l'être que de manière appropriée, en ce sens que lorsque vous dites que c'est une marche pacifique, un policier tire, ça ne s'est jamais vu non plus. Il faut quand même être sérieux et honnête de part et d'autre. Deux gens qui marchent paisiblement et il y a un policier qui prend une arme qui tire, non, ça n'existe pas. Il faut quand même être honnête. Nous sommes entre citoyens du monde, nous sommes des gens sérieux qui parlons de l'autre, de chaque côté de l'antenne. Il faudra quand même que l'on soit honnête dans un moment et dire non. Il y a eu peut-être un débordement de la part de la foule, il y a eu un mouvement hostile de la part de la foule, et peut-être la police a dû réagir à ce mouvement hostile
qui a fait disproportionnée.
De manière proportionnée. Mais lorsqu'il y a disproportion, comme je le disais encore, c'est peut-être que les moyens dont disposait ce policier en ce moment ne lui permettaient peut-être pas de reprendre de manière proportionnée et de manière progressive. Voilà.
Bien, ingénieur Joey nous appelle de Kinshasa et Odo Rusumu, Odo nous appelle de la Tanzanie. Ingénieur Joey de Kinshasa, bonjour et quelle est votre question?
Oui, bonjour Monsieur Jody et bonjour aussi à l'inspecteur.
Merci, bonjour.
Ok, j'avais deux petites préoccupations. La première est celle de savoir, j'aimerais un peu modifier un peu la question de mon prédécesseur. Et quand est-ce qu'il y a eu une manifestation, prenons par exemple ici dans la ville de Kinshasa, et il y a eu avertissement d'usage d'armes létales. Si les autorités politico-administratives sont toujours absentes, comme nous le constatons, mais par l'autorité de la police, quand notre invité peut nous donner un exemple, comme ça nous allons un peu savoir un peu plus. Et puis, est-ce que la police ne peut pas faire des mises, des formations, de remise à niveau, si je peux l'appeler ainsi, parce que tout ce que nous constatons, surtout ici dans la ville de Kinshasa et ailleurs, moi je vois qu'il y a une grande fossé entre ce que notre invité dit et la réalité, parce que la réalité est autre que notre, ce que l'invité dit, alors que, comme nous le disons nous tous, nul n'est censé ignorer la loi. Alors, ceux qui sont censés appliquer la loi doivent en premier lieu le connaître, entre autres, les policiers subalternes et les policiers de rang et tout ça. Parce que ce que notre invité dit, il y a une grande fossé entre ce qu'il dit et ce que nous vivons sur le terrain.
D'accord. Merci, Odo. Vous êtes à Rusumo, en Tanzanie. Bonjour. Et quelle est votre préoccupation?
Ok, je m'appelle Arsène Odo. Je demande à notre invité, et je pense que je vais faire une somme très durée, une somme très contente. Mais pour une
question
de notre police, je pense que tantôt aujourd'hui, nous avons une police qui loge dans des quartiers, et quand il y a des manifestations souvent, et quand il y a des bavures souvent, des policiers sont continués à être attaqués dans des quartiers. Pourquoi pas notre police ne pouvait pas demeurer dans des cas, parce que vous vous rendez compte ici à Tanzanie, il y a des manifestations souvent, et on s'est rendu compte qu'il y a des policiers qui se sont cherchés dans des quartiers et ils ont perdu la vie. On a essayé de créer une police secrète pour des intégrations. Autre chose que je vais demander à notre invité, c'est si dans notre pays, il y a une police souvent qui sont en train de faire des bavures et vous savez, leur niveau vraiment ce n'est pas un peu fort. Pourquoi pas on ne peut pas faire la police en qualité de recrutement au niveau de l'université. Parce que nous avons aujourd'hui des jeunes qui, à la longueur de la journée, ne trouvent pas de l'emploi. Et pour ça, il n'y a pas une forte sensibilisation pour notre police.
D'accord.
Est-ce qu'on ne pouvait pas faire de recrutement au niveau de l'université? Je m'arrête là.
D'accord, merci. Vous avez suivi dire pourquoi les policiers ne restent pas dans les camps. Parfois, quand ils sont dans la cité, ils sont attaqués. Alors, il parle aussi des bavures policières. Alors, il dit pourquoi ne pas aller recruter dans les universités au lieu de prendre certains policiers qui n'ont pas de niveau d'études.
Merci beaucoup pour mon ami Odon. Je suis vraiment très, très, très content de son intervention. Dans un premier temps, pourquoi les policiers ne peuvent pas loger dans des casernes? Dans l'optique de la police de proximité, ce que nous recherchons, c'est que le policier soit le plus près de la population. Et c'est dans cette optique que la réforme n'a pas souhaité que le policier reste dans les casernes, mais reste le plus près de la population. Sauf alors les unités d'intervention qui doivent être casernées quelque part et qui, au moment où ils reçoivent l'ordre de faire mouvement, il y a un décompte d'un certain timing pour qu'ils soient prêts. C'est-à-dire qu'ils doivent loger dans une caserne, qu'à tout moment lorsqu'on leur demande de faire mouvement quelque part pour réagir, ils doivent être prêts. Mais pour le reste, la politique a voulu que... nous soyons le plus près de la population.
La police
et nous sommes en train de voler dans cela, même dans la politique salariale, pour permettre un bon hébergement aux policiers dans le cadre de cette politique de proximité.
Par rapport au recrutement dans les universités.
Alors, dans le recrutement, il dit pourquoi on ne recrute pas l'université.
Oui.
Mon ami, tout celui qui est à l'université n'est pas forcément un bonus pater familiaris. Ce n'est pas parce qu'on est à l'université que forcément on est quelqu'un de bien. Non. Je crois que lorsque nous sommes en train de recruter, et les conditions de recrutement, nous en avons parlé dernièrement, nous commençons à partir de diplômés d'État ou équivalents et nous montons jusqu'à l'université. Mmh. C'est ainsi dans notre statut. Donc, de ce côté-là, n'ayez vos apaisements. Mais tout ce que nous faisons après le recrutement, nous avons une formation ad hoc que nous donnons à ces policiers nouvellement recrutés et après ce recrutement et cette formation, nous les soumettons à des renforcements de capacités, nous les soumettons à des exercices, à des examens psychiatriques et des examens physiques. C'est-à-dire pour pouvoir garder notre personnel apte physiquement et psychiquement à tout mouvement lorsqu'il faut le faire ou lors de toute autre opération.
Alors, on retient pour terminer que le policier peut recourir aux armes létales et non létales en cas de nécessité.
En cas d'absolue nécessité.
Et pour un objectif légitime.
Légitime et lorsqu'ils ne peuvent défendre autrement le lieu qu'ils sont en train de protéger.
Tout en respectant le principe de la proportionnalité.
Proportionnalité et de la progressivité.
De progressivité.
Voilà. Bien. Bravo pour votre mémoire.
Merci mon commissaire supérieur principal Ekouka Lipopo Jean Romuald, coordonnateur de la cellule de la réforme de la police. À la prochaine.
Merci beaucoup encore. Bonne année pour tous les auditeurs.